RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. Nous nous retrouvons et je crois que aujourd'hui le programme est particulièrement chargé. J'ai entendu dans vos premiers échanges hors micro des questions de dignité, des questions de personnes. Alors Michel, je me tourne vers toi. Par quel bout allons-nous commencer cette question ?
Alors, je pense qu'on va un petit peu changer de registre dorénavant, car on va, après avoir abordé des problèmes un petit peu qui étaient peu concrets, je crois qu'on va rentrer dans le concret, dans le témoignage. Et aujourd'hui, Yann, j'aimerais revenir sur une discussion que nous avons eue récemment concernant la dignité de la personne humaine. On parle beaucoup de dignité, mais qu'est-ce qu'on entend par là ?
Dignité, c'est un grand mot. C'est un grand mot parce que, parlons plus simplement, le fait que chacun d'entre nous est une créature du bon Dieu, eh bien, impose un respect de la personne, de toute la personne. Et la dignité de l'être humain repose dans le fait qu'il répond à la finalité qu'il a, à savoir qui se comporte de telle manière qu'il se destine à sa finalité qui est la contemplation de Dieu, qui se comporte comme un homme. Cette dignité de l'homme, elle dépend effectivement, va-t-il la conserver ? Alors la dignité existe dès le départ.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls au sein de l'Église catholique à parler de la dignité de la personne humaine. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement la vision de l'Église sur la personne par rapport à d'autres courants philosophiques.
L'Église voit dans tout être humain une créature de Dieu. C'est là qu'il y a une identité de nature. J'allais dire, pour employer un gros mot, une égalité entre tous les hommes, à savoir cette égalité qui est due au fait que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais, il ne faut pas s'arrêter à ce gros mot d'égalité. Car, comme le dit parfois en plaisantant la sagesse populaire, on est tous égaux mais pas pareils.
Et oui, parce que je suis unique.
Je suis unique.
Dans le dessein de Dieu.
Et c'est pour ça que cette dignité consiste à respecter l'unicité de chacun. Je suis un être unique. Pour ma part, c'est quelque chose qui crée une admiration. J'ai roulé ma bosse partout. Je n'ai jamais rencontré deux individus identiques. Jamais. Je suis unique. Tu es unique. Il n'y en a qu'un comme toi, il n'y en a qu'un comme moi. C'est formidable.
Malgré les milliards d'êtres humains qui sont passés sur la Terre.
Exactement. Et c'est quelque chose. Et la dignité, elle consiste à respecter ce qui fait l'unicité de chacun d'entre nous. Et donc, ce respect va être proportionnel un peu à, effectivement, la capacité de la personne à répondre à la finalité. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'un individu qui s'écarte de sa finalité, le voyou, il aura moins de dignité que celui qui contribue au fonctionnement de la société. Le criminel, effectivement, perd une partie de sa dignité, puisque dans les caractéristiques de sa personne, il est capable de mettre de côté tout ce qui est spécifiquement humain, puisqu'il néglige les autres, il les élimine, il ne remplit pas la fonction qu'il a en tant qu'être humain, et donc la dignité va être... Et c'est là que l'inégalité existe, bien évidemment.
Alors je reviens tout petit peu quand même sur l'avant-dernière phrase que tu as citée. La personne suivant l'attitude qu'elle a, parce que trop souvent aujourd'hui on dit que le groupe va exclure une personne, mais en fait c'est la personne qui s'exclut elle-même beaucoup plus que la société qui l'exclut.
Tout à fait, comme dans la théologie catholique, le pécheur s'exclut lui-même de la contemplation de Dieu, c'est pas Dieu qui l'exclut, c'est le pécheur qui s'exclut. De la même manière dans la communauté humaine, le criminel, le voyou, il s'exclut lui-même et par là il va perdre de sa dignité. Je pense que ce sur quoi il nous faut insister, c'est effectivement la question d'identité de nature, c'est que tous les hommes sont des êtres corporels animés d'un principe de vie spirituelle. Tous les hommes ont pour finalité le bonheur éternel. Tous ont le devoir de prendre les moyens qui les y conduiront. Et tous ont le droit, voilà une notion de droit et de devoir, tous ont le droit qu'on leur procure ces moyens, le droit de repousser ce qui les en prive. Hein, je rappelle le principe fondement de Saint Ignace de Loyola, l'homme est créé pour louer, servir Dieu et par ce moyen obtenir la vie éternelle.
C'est là que se trouve l'originalité de la position de l'Église à l'égard de la création
humaine. Tout à fait.
Et donc, c'est la notion de droit et devoir que tu évoquais à l'instant. C'est-à-dire que, de par notre création, nous avons un certain nombre de droits, mais le pendant, c'est qu'il y a un certain nombre de devoirs qui sont inhérents à la nature humaine, et suivant qu'on les respecte plus ou moins, cette dignité est respectée jusqu'au bout.
Tout à fait.
Alors, moi, je commence à avoir un peu de mal à suivre, parce que j'ai compris que nous avions la possibilité de nous exclure de la société, que tout ça, ça faisait peser sur nous une responsabilité personnelle assez lourde. Je vois que la société pourrait peut-être nous aider à... Mais je vous propose de reprendre notre souffle, une courte pause, et puis vous allez m'expliquer tout ça, parce que là, j'ai... Un peu de mal. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, poursuivons si vous voulez bien, mais j'aimerais peut-être, Michel, comment la société et la personne qui... Alors, j'ai bien compris qu'elle était unique, mais comment tout ça peut s'harmoniser et quelles sont les interactions de l'une par rapport à l'autre ?
Alors, quelle est l'incidence de cette unicité dans la société et dans l'organisation de la société ?
Il est évident que cette égalité, cette identité de nature, le fait que nous sommes tous des êtres humains, créatures du bon Dieu, va avoir des conséquences. Parce que il va falloir, traiter ces gens à partir de principes, toutes ces personnes, les traiter de manière équivalente, je ne dis pas égale, équivalente. Ça veut dire qu'il va falloir les traiter en justice, en fonction de ce que chacun est. Nous sommes uniques. L'unicité veut dire qu'il va falloir prendre en compte, au niveau de l'organisation sociale, les spécificités de chacun, traiter de manière strictement égale les gens, peut créer une injustice. Je prends l'exemple qui est bien connu dans l'entreprise. Si, sous prétexte qu'on a deux collaborateurs, deux opérateurs dans un atelier qui font le même travail, qui ont la même productivité, je parle de productivité, le même rendement, la même qualité, la même ancienneté, le même diplôme. Oui, mais il y en a...
Ils doivent avoir le même salaire.
Et on nous dit, travail égal, salaire égal. Désolé, il n'y a pas le même travail. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui travaille en transférant son savoir aux autres. Il y en a un autre qui il travaille avec le sourire, alors que l'autre, il travaille en maugréant, en râlant. Éventuellement, il n'hésite pas à tricher, à mettre une pièce mauvaise dans les pièces bonnes. Il n'y a pas le travail égal. Et donc, on doit traiter chacun des deux de manière différente.
Alors, c'est intéressant l'exemple que tu prends. On pourrait le prendre dans d'autres domaines. On le prendra peut-être dans la famille tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire que le système doit être organisé en fonction de la personne ? Est-ce que l'incidence, justement, de cette unicité sur la société, est-ce que la société doit être au service de la personne ?
Et là, je crois qu'on a une illustration parfaite de ce qu'on évoque depuis le début, à savoir que le rôle du politique, c'est de créer les conditions qui permettent à chacun de mener une vie digne de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour la suite de l'exemple que je viens de prendre, le système de rémunération dans une entreprise doit prendre en compte les spécificités que rendent la spécificité de service que rend chacun au travail.
Et on doit avoir le même parallèle dans la famille, par exemple.
L'exemple est bon parce que j'ai plusieurs enfants. Il ne me viendrait pas à l'idée de les traiter de manière égale. Il y en a un qui va avoir un cours de maths supplémentaire, l'autre qui va faire de la natation parce qu'il faut redresser la colonne vertébrale. On ne leur fait pas faire tous la même chose. Je pense qu'il n'y a aucun père ou qu'une mère de famille sensée qui, sous prétexte d'égalité, traiterait ses enfants de manière égale.
Donc l'organisation de l'éducation dans la famille comme la rémunération dans la société doit être adaptée à ce qu'est la personne,
oui,
pour qu'on respecte la personne dans son unicité, mais en retour, la personne ou l'enfant doit apporter le maximum de ce qu'elle est à l'environnement qu'il fait vivre.
Et c'est là qu'on retrouve la notion de bien commun. Il est évident que d'un certain côté, la société...
On reviendra sur le bien, oui, commun dans une émission future.
Mais simplement pour répondre à cette question, la société est là pour aider la personne à réaliser sa finalité qui est la contemplation de Dieu. Et inversement, l'homme est là, la personne est là pour collaborer au fonctionnement de la société.
Quel programme que cette dignité de la personne et quels impacts sur la société, la vie, le travail, la formation, l'école, la famille et bien d'autres sujets. Mais je reste perplexe, Yann, sur la complémentarité ou l'opposition de nos différences. Et je te propose que nous reprenions ce thème lors d'un de nos prochains échanges.